Salut, c'est Yoko. Bienvenue dans Quand je serai grand. Je produis ce podcast avec Margot et si tu nous écoutes depuis une plateforme, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Quand je serai grand. Quand on est enfant, on les appelle maître ou maîtresse. Mais leur appellation officielle, c'est professeur des écoles. Ils peuvent marquer nos vies, nous influencer et rester ancrés dans nos mémoires pendant des années. La preuve, dans Le Grand Oral, une émission d'éloquence diffusée sur France 2, le thème imposé de la finale était « Lettre à un prof ». Et je te conseille fortement de regarder ces passages en replay tant ils témoignent des sentiments forts que l'on éprouve à l'égard des enseignants quand on est enfant ou adolescent. Je connais ce métier de près puisque ma maman l'a exercé toute sa carrière. Alors la pression des parents d'élèves, la fatigue et la charge de travail en dehors des horaires de classe sont bien réelles, quoi qu'en pensent les détracteurs qui ne mentionnent que les vacances scolaires. Comme j'admire ces enseignants qui s'occupent quotidiennement d'éduquer et d'instruire des enfants de 2 à 11 ans. Et pendant le premier confinement, je peux te dire que les parents se sont bien rendus compte qu'il s'agissait d'un métier à part entière. En 2019, on comptait 333 000 fonctionnaires à enseigner dans le premier degré, c'est-à-dire à exercer dans le public. Fiona compte parmi les 85% de femmes de ce métier. Elle est professeure des écoles depuis 5 ans et a déjà eu en charge tous les niveaux de la petite section au CM2. Cette année, elle s'occupe de 3 classes en maternelle. Louise a 17 ans et a grandi dans une famille nombreuse. Elle est donc habituée à s'occuper de ses frères et sœurs et aime ce contact avec les plus jeunes. Elle se pose des questions quant à son avenir et s'intéresse de plus en plus au métier de Fiona. Je te laisse avec elle.
2 × 2, 4, 2 × 3.
Bonjour, moi c'est Louise.
Bonjour Louise.
Alors déjà, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et pourquoi ?
Au fond de moi, j'ai toujours voulu être maîtresse, vraiment depuis que je suis toute petite. Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai fait mes études, etc., comme j'avais des bonnes notes, tout le monde m'a un peu dissuadée. Tout le monde m'a dit « Non, mais maîtresse, les enfants, ils sont durs. En plus, t'as des super notes, tu pourrais être mieux payée, tu pourrais faire quelque chose de mieux, etc. » Donc en fait, après le lycée, je me suis pas du tout orientée dans ça. J'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc dans le commerce, le marketing et la com. Et c'est au cours de mes stages que en fait, j'ai eu des expériences avec des enfants. Par exemple, j'ai travaillé chez Leroy Merlin et j'ai des familles qui venaient avec des enfants. Je discutais avec les enfants et il y en a un jour qui m'a dit « Mais j'aimerais bien que tu sois ma maîtresse. » Et là, je me suis dit « Ah, je me suis peut-être trompée. » Et du coup, j'ai fini mon DUTTC et j'ai fait une validation d'acquis directement pour aller en L3 en sciences de l'éducation. Au niveau des études, tant que tu as un master, enfin à l'heure actuelle, tant que tu as un master, tu peux passer le concours, même si tu as un master de psychologie, de maths, de droit, enfin, t'es pas obligé de te spécialiser dès la sortie du bac.
D'accord, bah justement au niveau des études, du coup, est-ce qu'il y a un parcours quand même que tu recommandes pour accéder à ce métier ?
Moi, j'ai pas eu vraiment un parcours classique. Ce qui m'a beaucoup appris, ma meilleure année, c'est ma L3 sciences de l'éducation. Et ça, c'était vraiment super. Après, une fois que j'ai fait ma L3, j'étais en master MEF, donc c'est M-E-E-F, personnel éducatif et enseignement et formation, que j'ai fait un an au Mans et un an à Nanterre en région parisienne. Après, moi, je regrette pas du tout d'être passée par mon DUT avant, parce que déjà, j'ai un diplôme avec le DUT en commerce. J'ai appris beaucoup de choses dans ces études-là qui me servent beaucoup au quotidien, comme parler devant beaucoup de monde, parce que c'est vrai qu'on n'est pas préparé quand on a des réunions avec les parents au début d'année et qu'on est tout seul face à tous les parents. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont impressionnés et qui disent souvent « Moi, je déteste. J'adore parler avec les enfants, mais dès qu'il y a les parents, j'aime pas du tout. » Aussi, on apprend aussi à travailler en équipe, en DUT. Et donc ça m'a beaucoup servi au niveau du management, de la gestion de ma classe, etc. Après, j'ai fait aussi du théâtre et de l'animation.
D'accord, très bien. Et du coup, quelles sont les qualités à avoir pour ton métier ? Parce que bah, déjà, il y a, comme tu disais, le fait de pouvoir parler assez facilement. Mais du coup, est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, je pense qu'il faut aimer les enfants. Ça paraît simple, mais en fait, il y en a qui font pas ça pour les bonnes raisons. Enfin, les gens pensent qu'on a des horaires cool, mais on a aussi beaucoup de préparation, etc. Les autres qualités, c'est être dans la communication. Ça, c'est super important, autant avec les enfants qu'avec les parents. Parce que si tu as la confiance des parents, tu auras aussi la confiance des enfants. Et ça se passera bien dans la classe. Après, je pense que la créativité, c'est un gros atout. La curiosité, c'est aussi bien. Parce que tu peux leur apporter en fait plein de choses par rapport à ta culture à toi, à ce que t'aimes aussi, en art par exemple, en musique. Moi je fais aussi de la danse avec mes élèves. Enfin c'est vraiment un métier très enrichissant parce que comme on choisit pas une matière, en fait tu peux vraiment laisser parler ta personnalité à travers ton enseignement.
Et du coup, quand tu parlais justement du travail après avoir fait classe, quoi, du coup comment s'organise ta journée type, y compris en dehors des heures d'école?
Alors en général, j'arrive entre une demi-heure et une heure avant l'arrivée des élèves pour préparer un peu la classe, mettre en place les ateliers, pouvoir discuter avec son ATSEM si tu es en maternelle. Donc l'ATSEM, c'est la dame qui est tout le temps avec nous dans la classe pour nous aider avec les enfants, qui s'occupe des ateliers avec nous. C'est nous qui sommes en charge de la pédagogie, mais l'ATSEM, elle fait aussi partie de la vie de l'enfant en maternelle. Donc c'est important aussi de communiquer avec elle pour que ça se passe bien, etc. Ensuite, les enfants arrivent entre 8h20 et 8h30. Après, dans la journée, on a classe jusqu'à 11h30, moi dans mon école en tout cas. Il y a une récré le matin. Donc si t'es de service, en fait, le matin, tu fais du non-stop. T'as à peine le temps d'aller aux toilettes. Après, on a 2 heures de pause le midi. Mais en fait, souvent, pendant les pauses du midi, alors si t'es en élémentaire, en général, tu prends une demi-heure de pause, mais le midi, tu corriges les cahiers, tu classes leurs devoirs, tu peux corriger aussi si t'as fait des évaluations, etc. En maternelle, tu vas accrocher les réalisations qu'ils ont fait, par exemple. Voilà, des choses comme ça, trier leurs travaux aussi. Ensuite, on reprend l'école à 13h30. Et ensuite, c'est pareil, continue jusqu'à 16h30. Et une fois que les élèves sont partis, il y a tout encore, il faut encore ranger la classe, décorer, etc., accrocher au tableau. Et au niveau du travail, après, en dehors, moi, je m'organise de façon à ce que, à chaque vacances, je prépare toute ma période, plus ou moins. Après, on peut s'adapter aussi parce qu'il faut rester flexible, il ne faut pas trop prévoir des choses. Mais je prépare tout pendant les vacances, donc mes projets, etc. Par exemple, là, avec mes moyens et mes grands, on fait le tour du monde. C'est vraiment super, j'ai plein de projets, plein d'idées. Tu regardes sur Instagram, sur Pinterest pour trouver des idées. Et après, une fois que tu as tout préparé de chez toi, tes documents, etc., tes idées, ton cahier journal, donc ça, c'est vraiment l'outil type du professeur des écoles. C'est en gros le planning de ta journée avec qu'est-ce que tu fais à chaque heure. Et après, ensuite, ce qui reste à faire, c'est la préparation du matériel une fois que je suis à l'école, quelle peinture je vais utiliser, les commandes, si j'ai besoin de plumes, de perles ou de choses comme ça. Et ça, c'est du temps aussi en plus. Après, il faut savoir aussi qu'on gère aussi la coopérative de l'école. Donc, c'est les parents qui donnent de l'argent pour qu'on puisse faire des projets avec les enfants. Donc on est aussi comptable, on est aussi psychologue, parce que parfois on a les parents en pleurs, en rendez-vous, donc on doit les aider, essayer de comprendre leurs problèmes, essayer d'aider les enfants. On a plusieurs casquettes, en fait. Donc faut que ça te plaise aussi, le fait d'être polyvalente, mais c'est sûr qu'on s'ennuie jamais.
D'accord, et du coup, quels aspects, enfin je pense que t'as déjà un petit peu parlé de ça, mais du coup, concrètement, quels aspects tu aimes particulièrement dans ton métier?
Alors moi, les deux points principaux, c'est la relation avec les enfants et la relation avec les parents. Pour moi, c'est vraiment ces deux piliers de mon métier. L'investissement qu'on donne, le temps qu'on donne pour les enfants, pour préparer les projets, etc., ils nous le rendent fois mille. Ils nous font des déclarations d'amour tout le temps. Ça, c'est super chouette et c'est très gratifiant. Ils remarquent dès que t'as une nouvelle robe, une nouvelle coupe de cheveux. Ils te disent « Ah, mais maîtresse, t'es trop belle !» etc. Et ensuite, t'as les parents qui t'envoient des mails en te disant « Merci, mon enfant est heureux d'aller à l'école. » Et rien que pour ça, alors oui, on n'a pas un salaire mirobolant, mais en fait, on se lève tous les jours le matin et on a des petits êtres, on va leur apprendre plein de choses, ils demandent que ça d'apprendre et franchement, ça c'est super. Et les parents, il faut s'en faire des alliés. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent toujours « Oui, les parents, ils sont comme ci, ils sont comme ça. » Mais non, en fait, les parents, ils te confient la chair de leur chair. Donc, c'est normal parfois qu'ils soient inquiets, qu'ils posent des questions, parfois qu'ils soient maladroits. Moi, j'ai jamais eu de gros soucis avec les parents. Et je pense que le fait de beaucoup communiquer avec eux, c'est ce qu'il y a de primordial. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, une fois que tu as les parents dans la poche, les enfants, c'est gagné, quoi.
Oui, et du coup, bah, même si t'as fait, même si pour le moment t'as que 5 ans d'expérience dans ce métier, est-ce qu'il y a quand même un niveau ou alors le fait d'être en élémentaire ou alors en maternelle que tu préfères ?
Au début, on ne choisit pas. Moi, j'ai commencé ma première année quand j'étais PES, donc c'est professeur des écoles stagiaires. J'étais en petite section et j'ai vraiment adoré. Donc la petite section et le CE2, c'est vraiment des classes, on va dire, faciles. Pour débuter, parce qu'il y a quand même moins de travail, c'est le début des apprentissages, etc. Donc tu peux plus tester des choses, voir si ça marche, si ça marche pas, etc. Après, c'est vrai pour les autres niveaux aussi, mais il n'y a pas le même degré d'exigence. C'est pas du tout le même travail. Moi, j'aime beaucoup les deux. Ça fait 2 ans maintenant que je suis en maternelle. L'avantage de la maternelle, c'est vraiment que tu peux faire des projets, tu es un peu plus libre qu'en élémentaire, parce que oui, tu as un programme à suivre. Mais par exemple, tu dois faire en graphisme, tu vas devoir faire les lignes horizontales et les lignes verticales. Et après, tu l'exécutes de la façon que tu as envie. Donc si tu aimes un artiste et que tu as vu qu'il faisait des lignes verticales, tu peux le faire comme ça. Sinon, tu peux travailler par exemple sur la savane et faire des lignes verticales sur les zèbres par exemple. C'est en ça que c'est vraiment chouette la maternelle, c'est que vraiment tu as des petits objectifs et après tu les amènes un peu comme tu as envie. L'élémentaire, la relation avec les enfants est quand même super parce qu'ils se confient à toi, ils sont plus proches de toi, etc. C'est pas du tout le même travail. Après, il y a plus de travail quand même en élémentaire parce qu'on a toutes les corrections, etc. de cahier. Après, c'est une organisation aussi. Mais c'est vrai que le travail en maternelle à la maison est moindre. Par contre, la fatigue en maternelle, comme il y a plus de bruit, les enfants sont plus jeunes, on doit plus les surveiller, ça bouge dans tous les sens, on a des ateliers, des jeux, etc. Et donc ça, physiquement, c'est plus fatigant. En élémentaire, c'est plus calme, t'as plus de travail le soir, mais t'as moins la tête comme une pastèque.
Oui, c'est vrai que ça a l'air quand même d'être deux mondes assez différents. Et sinon, à propos des écoles publiques et privées, je ne sais pas si tu es dans une école, toi, plutôt publique ou privée. Et du coup, quelles sont les différences entre ces deux types d'écoles, on va dire ?
Alors, moi, je suis dans le public. D'une chose, ce n'est pas du tout le même concours, même si au final, ensuite, si c'est des écoles privées, contrat éducation nationale, c'est les mêmes programmes que nous. Ce que je sais, c'est que c'est deux concours différents et que la différence entre le privé et le public, c'est que dans le privé, tu vas pouvoir postuler à des écoles et dans le public, c'est pas toi qui choisis. Tu peux faire des demandes de vœux et ça, c'est un peu un inconvénient de notre métier, c'est que tu passes ton concours dans une académie et ensuite, tu peux pas vraiment choisir la ville où tu enseignes. Et les écoles que tu veux. Alors ça peut venir avec le temps, mais au début par exemple, moi je suis en région parisienne, j'habite dans le 78, je travaille dans le 92 parce que c'est compliqué de faire des changements entre le 92 et le 78. Après il faut savoir que les concours en région parisienne ils sont plus faciles. Après mes amis avec qui j'étais à la fac à Angers, ils l'ont passé dans l'académie de Nantes, mais c'est beaucoup plus dur. Après, pour être mobile, il y a aussi des passerelles. Moi, j'ai un ami qui a fait une demande de disposition, c'est-à-dire que ton poste est réservé en France, mais toi, tu peux aller enseigner dans des écoles à l'étranger. Donc moi, j'ai pas encore eu le courage de le faire, mais c'est vrai que c'est aussi tentant. Et c'est une opportunité, si t'aimes voyager, etc. Il y a des sites où tu peux postuler dans les écoles en étant dans l'enseignement public. Postuler dans des écoles partout à l'étranger, dans des écoles françaises, et aller y vivre et y enseigner.
L'avantage quand tu es professeur expatrié est aussi financier. Et puis tu acquiers également plus de points, car dans l'éducation nationale, il existe un système de points que tu obtiens notamment selon ton ancienneté ou la zone dans laquelle tu es affecté. Par exemple, si tu travailles dans une école en REP ou REP+, les réseaux d'éducation prioritaire, tu en gagnes davantage.
Ouais, c'est plutôt sympa du coup de pouvoir voyager comme ça. Et quels sont, on a beaucoup parlé des points positifs, mais quelles sont les difficultés de ce métier en contrepartie ?
Alors, faut vraiment rester quand même sur les points positifs. Mais c'est vrai que le gros point négatif, c'est l'éducation nationale. C'est que, en fait, on n'a pas de médecine du travail déjà. Donc si t'as un problème, t'es pas vraiment soutenu par ta hiérarchie. En général, je sais pas si t'as entendu parler du mouvement pas de vague dans les écoles, c'est-à-dire que quand il y a des profs en souffrance, qui se font maltraiter, ou, etc., ou même des élèves parfois, aucun soutien de notre hiérarchie, et du coup on peut pas faire les démarches. On est vraiment un peu laissé à l'abandon, même quand on a des problèmes avec des élèves, on a de moins en moins de médecins scolaires, de psychologues scolaires, donc on doit un peu se débrouiller. Donc ça, c'est un peu pénible. Un autre inconvénient, on va dire, c'est l'a priori que les gens ont sur le métier. Et j'essaye de m'en détacher, mais c'est vrai que c'est très difficile parce que, en fait, pour l'opinion publique, ah bah t'es prof, t'es en vacances tout le temps, tu finis à 16h30, et en plus, tu travailles pas le mercredi. Donc en gros, tu fous rien, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu rageant parce que t'as l'impression en fait qu'il faut toujours prouver aux gens que bah oui je suis prof mais je travaille et j'ai pas de ticket resto, j'ai pas de congé payé en plus, enfin de RTT je veux dire que tu peux poser n'importe quand. Parce que les gens ils disent oui mais ça va t'es en vacances tout le temps et puis après tes potes ils te disent ouais bah nous on part au ski mais hors saison parce que du coup ça coûte trop cher pendant les vacances scolaires. Donc voilà, c'est un peu les points négatifs. Alors oui, on a les vacances, et c'est vrai que c'est un avantage, mais on a le salaire qui n'est pas très haut non plus. Donc par exemple, quand t'es professeur stagiaire, alors je sais pas si c'est les mêmes grilles quand t'es en province, comme moi je suis en région parisienne.
Ce qui change selon les régions, ce sont les primes perçues. Et en Île-de-France, il y en a plus car le cadre de vie attire moins. À l'installation, en revanche, c'est-à-dire au début de leur carrière, tous les enseignants français reçoivent une somme identique, soit 750 euros.
Tu commences à peu près à 1004, et là, au bout de 5 ans, je suis à 1007, mais je ne vais pas beaucoup évoluer. J'ai des enseignantes dans mon école qui sont là depuis des années, elles sont à peine au-dessus de 2000. Donc au niveau du salaire, on n'a pas une perspective d'évolution en restant professeur. Il ne faut pas faire ça d'ailleurs pour l'argent. Mais on a d'autres choses. Par exemple, moi, à la fin de l'année, bah, c'est ce que je te disais, on a des cadeaux. Après, ça dépend aussi où tu travailles, etc. Et les parents, en général, ils font en fonction de leurs moyens. Mais moi, là où je travaille, j'ai vraiment eu des cadeaux de fou. Des milliers de bouquets de fleurs. Oui, c'est hallucinant. À Noël, on a des quantités de chocolat faramineuses. Bon, j'ai aussi les mugs. D'ailleurs, mon copain, il n'en peut plus parce que ça s'entasse. On a les mugs et les bougies. C'est, t'en auras chaque année, normalement. Ça, c'est le basique. Mais en fonction des classes, si les parents s'entendent bien, etc., tu peux avoir, on va dire, c'est une petite contrepartie en plus. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir.
Est-ce que du coup il y a des évolutions ou des reconversions qui sont possibles une fois que tu as été professeur des écoles en fait ?
Alors déjà pour les évolutions en parlant salaire, tu peux comme moi je fais faire des colos pendant les vacances. Donc ça c'est aussi un petit plus. Ça permet aussi d'allier vacances, détente et en même temps boulot. Ensuite tu peux aussi faire des études, donc le soir avec les enfants en élémentaire. Ça fait aussi, ça peut te permettre de rapporter un complément de salaire. Ensuite, en perspective d'évolution, tu peux être maître formateur. Donc, c'est des professeurs des écoles qui ont des journées de décharge dans la semaine pour aller visiter les professeurs débutants, etc. et les aider à évoluer, les former. Tu peux aussi devenir directrice d'école. À la fin de ta première année de stage, une fois que tu as été validée, tu peux devenir directrice. C'est juste une petite certification à passer si tu as envie. Après, le côté du directeur, c'est que c'est rare d'être que directrice, donc tu as aussi ta classe. Et du coup, tu as tout le travail administratif. En général, une ou deux journées de décharge, mais c'est pas suffisant. Et tu dois jongler entre ta classe et le boulot du directeur, donc c'est pas évident. Il faut savoir que les directeurs en école élémentaire et maternelle ne sont pas nos supérieurs hiérarchiques, contrairement au collège ou au lycée. Donc ils n'ont aucun pouvoir sur nous, c'est un collègue comme les autres, ils ont juste une casquette en plus, quoi. Après, tu peux devenir aussi inspectrice de l'éducation nationale, mais du coup, t'es plus du tout sur le terrain. Tu vas de temps en temps visiter les professeurs pour voir, pour faire des visites d'inspection, mais t'es plus du tout avec les enfants, donc tu perds un peu ce côté-là. Et tu peux être aussi conseiller pédagogique, donc c'est pareil, tu travailles avec l'inspectrice et tu as des sujets de prédilection. Par exemple, nous, on a un conseiller pédagogique sur le numérique qui, si on a besoin, on peut l'appeler, il peut nous donner des pistes sur le numérique, il peut aussi nous prêter des tablettes, etc., pour faire des expérimentations.
Alors, sinon, y a-t-il une chose qui a été surprenante pour toi quand tu as commencé ce métier, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas ?
Alors, une chose qui m'a surprise, c'est que quand on dit la première année que t'es professeur stagiaire, et en fait, t'es toute seule dans ta classe, et tu te débrouilles, et t'as 3 visites par quelqu'un qui vient de visiter, ce que je te disais tout à l'heure, un PEMF, et voilà, en fait, ils disent que t'es stagiaire, mais en fait, t'es toute seule, t'es pas vraiment accompagnée, et ça a été un peu surprenant.
Et est-ce que tu penses, du coup, que ton métier est plutôt varié ou répétitif
Alors, il est très varié parce que déjà, en fonction des... Même si tu as toujours le même niveau de classe, les élèves sont différents chaque année et chaque journée n'a rien à voir l'une avec l'autre. Il y a des journées où tu te dis « Ah, mais pourquoi je fais ce métier ? Ils ont été horribles parce qu'il suffit qu'il pleuve dehors ou qu'ils soient pas sortis le week-end d'avant, etc. » Et d'autres journées où tu te dis « Mais c'est le plus beau métier du monde, franchement, c'est super. » Et tu t'ennuies jamais et t'apprends toujours parce que tu es obligé de te renouveler aussi pour pas t'ennuyer. Et ça, c'est chouette.
C'est beaucoup en fonction des enfants.
Oui.
Et du coup, pour finir, quel conseil tu voudrais apporter à quelqu'un qui voudrait devenir professeur des écoles ?
Alors, mes conseils, c'est d'être surtout bienveillante et d'aimer les enfants. Et je pense qu'une fois que le plus important, c'est vraiment la relation avec les enfants. Après, tout ce qui est pédagogique, etc., tu l'apprends avec tes collègues, tu discutes avec eux. En général, ils sont super bienveillants aussi, donc tu peux leur poser des questions, tu peux leur piquer des idées aussi, ils peuvent t'aider. Donc ça, c'est chouette. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment le lien avec les enfants que tu crées. Et c'est en ça qu'ils vont aussi grandir. Et grâce à ce lien-là, tu peux aussi les faire progresser plus vite et ils vont avoir envie de venir à l'école. Et pour moi, c'est ça le principal. C'est que tes élèves, ils se disent « j'ai envie d'aller à l'école ».
Merci beaucoup pour tes réponses.
Écoute, Louise, merci pour toutes tes questions. J'ai été ravie de discuter avec toi. Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram pro, maîtresse Fio, sur Insta. Et j'y répondrai de nouveau avec plaisir. À bientôt!
Je voudrais savoir si t'as appris des choses, si ça t'a donné envie d'aller vers ce métier ou si justement tu te dis « oulala, les enfants, ça n'a pas l'air si facile que ça ».
Déjà, je suis dans une famille assez nombreuse. J'ai plus pas mal de frères et sœurs, donc les enfants, pour moi, comme ils sont tous plus petits, c'est pas trop nouveau. Et justement, ça m'encourage pas mal à continuer dans ce choix parce que Fiona est quand même super optimiste et elle donne plein de points positifs pour faire ce métier.
Ce nouvel épisode de Quand je serai grand est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager. En ce qui concerne la formation de professeur des écoles, je te mets des liens en description de cet épisode et dans l'article dédié sur le site internet. Enfin, Fiona s'appelle Maîtresse Fio sur Instagram. Elle partage ses idées créatives et pédagogiques, et si tu as des questions, elle sera ravie d'y répondre. On se retrouve dans une semaine, chère Z. D'ici là, bon courage pour cette période. Je sais que c'est pas évident et je suis de tout cœur avec toi.